Radio Okapi.
À la présentation du journal, Babel Pongo Massimango.
Bonsoir. Retour au calme cet après-midi à Goma, après les manifestations des habitants contre l'insécurité. Manifestation ayant conduit au meurtre d'un élève. Le procès en flagrance de trois policiers poursuivis pour ce meurtre s'est ouvert aujourd'hui même à l'auditorat militaire de Goma. Et vers une mort en silence, sur les rapports présentés aujourd'hui à Kinshasa par deux organisations de la société civile. C'est un plaidoyer pour la reconnaissance des droits de condamnés à la peine capitale à travers le pays. C'est le fruit d'une enquête menée dans 10 prisons congolaises. La prise en charge des victimes de violences sexuelles, nous en parlons avec notre invité, Dr Marlène Nomimbié, de l'hôpital général de Kananga, une structure appuyée par Médecins sans frontières. L'ONG a permis la prise en charge de plus de 2000 victimes entre janvier et octobre au Kasaï central. La situation est redevenue calme cet après-midi à Goma, après de violentes manifestations toute la matinée dans les quartiers situés au nord-est de la ville. Au moins 4 axes routiers avaient été barricadés par des manifestants qui condamnaient le meurtre d'un élève tué par une balle tirée par un policier. Ces habitants en colère ont incendié le commissariat de la police au quartier Kasika. Des militaires sont venus à la rescousse pour aider la police à rétablir l'ordre. Bernard Denyangui nous fait le point de la situation.
Les axes routiers kilomètres témoins Majengo et Mutika Katoy, axes signières marché Virunga et axes rompeurs Rutshuru aéroport, qui étaient barricadés par des pierres toute la matinée, ont été rouvertes grâce à l'intervention de la police appuyée par les militaires FARDC. Toutefois, dans toute cette partie de la ville, les activités sont restées paralysées toute la journée. La plupart des écoles n'ont pas fonctionné et les commerces sont restés fermés. Le vice-président de l'Assemblée provinciale, qui condamne la cause de cette violente manifestation, demande que justice soit faite. Honorable Jean-Paul Mboulombo.
Il est inacceptable que la police fasse l'usage des armes létales, surtout pour une population inoffensive à l'image des élèves. C'est pour ça que nous avons besoin d'une police formée et qui exige qu'une audience en flagrance soit immédiatement déclenchée à l'endroit de cet auteur-là, de cet assassinat, et publiquement pour que cela ne se répète plus jamais dans la province du Nord Kivu.
Rappelons que tout a commencé à 6h locale, quand la population des quartiers Kasika et Katoy est descendue dans la rue pour manifester contre le énième cambriolage d'une dizaine de maisons par des hommes armés dans leur entité. Alors que ces manifestants approchaient le commissariat de la Pensée à Kasika, une femme policière qui était commise à la garde a tiré des balles réelles, touchant un élève d'environ 14 ans, ce qui a provoqué des manifestations violentes dans plusieurs quartiers. Goma, Bernard Nyangui, Radio Okapi.
Aux dernières nouvelles, nous apprenons que trois policiers ont comparu cet après-midi devant l'auditorat militaire garnison de Goma. Cette instance judiciaire a ouvert sous le coup de 15h local en procès en flagrance contre ces policiers, accusés entre autres du meurtre de l'élève tué par balle ce matin au début des manifestations populaires au quartier Kasika. Après l'instruction du dossier, l'auditorat a renvoyé le procès à demain, à mercredi. Selon des sources de l'auditorat, ce procès devrait se poursuivre dans une audience foraine délocalisée au commissariat provincial de la police. Dans la ville de Beni, la journée de ce mardi a plutôt été marquée par la reprise de cours dans plusieurs universités et écoles, une reprise qui intervient après plus de 2 semaines des journées ville morte et de troubles pour dénoncer les massacres à répétition des civils par les ADF. Le point sur cette reprise des cours avec vous, c'est Kombi Katondolo.
C'est une reprise des cours plutôt timide ce mardi matin en ville de Beni. À l'université officielle de Semouliki, quelques étudiants sont visibles dans la cour et certains dans des auditoires sans la présence des enseignants. Monsieur Kasere Kagras, président du comité des étudiants de l'UOS, confirme la reprise effective des cours et appelle ses camarades qui hésitent encore à venir étudier à le faire car selon lui, la place de l'étudiant n'est pas à la maison mais dans un auditoire. À l'école secondaire Institut Bungulu, quelques élèves ont été aussi présents dans la cour et les enseignants ont pu dispenser certaines matières. Contacté, l'inspecteur de l'enseignement chef de poule du secondaire à Beni nous a confirmé avoir organisé une ronde dans les écoles pour se rendre compte de l'effectivité de cette reprise de cours. Il promet de se prononcer dans les heures qui suivent. Rappelons que le cours et autres activités ont été suspendues pendant près de 2 semaines à cause de troubles et villes mortes pour protester contre le massacre à répétition des civils par le rebelle de l'ADF en ville et territoire de Beni. Beni, c'est Kumbi Katondolo, Radio Okapi.
Avant de quitter le Nord Kivu, sachez que des présumés Maïmaï ont vandalisé hier soir le centre de santé Wayene, qui est situé dans la zone de santé de Katwa, dans la ville de Butembo, DDT avec Florida Kambo.
Selon les sources au sein de cette structure sanitaire, ils étaient munis de lances et de lance-pierres. Ces assaillants ont d'abord terrorisé le personnel soignant qui était de service, rapporte notre source. Ils ont détruit les matériels médicaux dont les microscopes, ainsi que les dispositifs de lavage des mains. Ici, ils ont trouvé les tanks d'eau. Après leur sale besogne, ils ont apporté argent, téléphone et autres biens du personnel de ces centres de santé. Conséquence, les activités des prises en charge médicales des malades ont connu un ralentissement, regrette Madame Kavira Sieria, infirmière titulaire de cette formation sanitaire. Elle rapporte que vendredi dernier, les membres du même groupe ont visité le même centre, se faisant passer pour des malades. À leur sortie, ils ont saccagé une structure sanitaire dans les mêmes coins. Madame Kavira Sierra demande ainsi aux autorités compétentes d'interpeller la conscience des jeunes et sécuriser les structures sanitaires qui font face aux menaces des groupes armés. Butembo, Florida Kaambu, Radio Okapi.
Vers une mort en silence, c'est l'intitulé du rapport que vient de présenter à la presse ce mardi à Kinshasa l'ASBL Culture pour la paix et la justice, en partenariat avec Ensemble contre la peine de mort. Ce rapport est le résultat d'enquêtes menées par ce collectif d'abolitionnistes de la peine de mort auprès de 235 condamnés à la peine capitale en détention dans 10 prisons de la République démocratique du Congo. L'essentiel de ce rapport dans ce reportage de Jeff Ngoy.
Insuffisance de la justice pénale congolaise, violation du droit à un procès équitable, pas de soins de santé, pas de nourriture, pas de logement, c'est l'oubli. Le rapport peint un tableau sombre des conditions carcérales que traversent 235 condamnés à mort, selon le président de Culture pour la paix et la justice, Maître Lévin Gondji.
Nous avons découvert que la plupart de ces personnes sont méconnues des autorités administratives compétentes des prisons. Aujourd'hui, si vous allez au ministère de la Justice, à la Cour de cassation, à la Haute Cour militaire, ils n'ont pas ces statistiques, alors qu'ils les gèrent. Quand quelqu'un est déjà ignoré, c'est qu'il est voué à sa perdition. Nous sommes dans la peine des morts exécutés en silence.
Quel droit violé reconnu à ces condamnés à mort? Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Mwamoussou Mwamba, explique.
Un condamné à mort a tous les droits. Il a droit à l'alimentation, au logement, sauf le droit de circuler librement. Ce n'est pas dit que parce que quelqu'un est condamné à mort, donc il est appelé à mourir, même s'il est malade, on ne va pas le soigner. Il doit seulement mourir, non.
Dans les prisons de Luzumu, Makala, Angenga, Ndolo, Kasapa, Bulo, Kindu, Goma, Osio, les condamnés à mort sont des laissés pour compte, d'après les enquêteurs.
Un autre plaidoyer, c'est celui que mène l'ONG internationale Greenpeace et une coalition de 22 autres organisations de la société civile de la République démocratique du Congo et du Congo-Brazzaville. Elles appellent les gouvernements de ces deux pays à mettre fin à toute initiative d'exploitation industrielle dans les tourbières de la cuvette centrale. À la place de l'exploitation pétrolière et de l'agriculture industrielle, elles suggèrent que ces gouvernements appuient plutôt des projets de développement des communautés locales. Irène Wibiwa Betoko, responsable de la campagne Forêt à Greenpeace a lancé cet appel aujourd'hui 10 décembre ici à Kinshasa au cours d'un point de presse. Elle est au micro de Paul Matendo.
Greenpeace et une coalition des 22 autres organisations disent non à l'exploitation industrielle, non à l'exploitation du pétrole dans les tourbières. Et nous le disons, c'est pour l'intérêt de la biodiversité qui regorge ces écosystèmes, c'est pour l'intérêt des communautés et peuples autochtones qui vivent et dépendent de ces forêts et écosystèmes, c'est pour l'intérêt du climat mondial. Et donc, nous demandons au gouvernement congolais, de la RDC comme du Congo-Brazzaville, à tous les bailleurs des fonds, d'appuyer des projets communautaires qui sont sur la table et qui manquent des financements et qui manquent d'appui technique. Les communautés ont des projets, elles ont des idées qui peuvent être exploitées pour mieux gérer les forêts et les tourbières et aussi contribuer à l'économie nationale. On ne devrait pas seulement mettre l'attention sur les multinationales alors que les premiers gardiens de ces forêts, les premiers gardiens des tourbières qui sont les communautés, qui sont les peuples autochtones, ont des idées qui doivent être exploitées.
Dans la province du Haut-Uele, les prix de produits de première nécessité ont doublé, voire triplé depuis quelques semaines dans les territoires de Dungu et Faradje. En cause, la dégradation des principales voies d'accès, notamment la route Dungu-Faradje et Dungu-Nyangara. Jacques Mokonkolo nous décrit la situation.
La route Dongo-Faradje et l'axe routier Dongo-Niangara sont complètement délabrés. Selon la société civile des Dongo, ces routes sont parsemées de grands bourbiers et des trous profonds qui ne facilitent pas la circulation des véhicules et d'autres engins motorisés, notamment les motos. En conséquence, le trafic est quasiment interrompu, entraînant ainsi la rareté des produits de première nécessité. Le sucre, le sel, les savons et du carburant ont vu leur prix doubler ou quasiment tripler. À cause de cet état piteux de route, les responsables de la FEC, de la FENAPEC, de la Société Civile Force Vive et de la Nouvelle Société Civile de Dongo et Faradje ont adressé un mémorandum aux autorités politico-administratives du Haut-Ouélé. Dans ces documents, ils leur accordent un délai de 7 jours pour que les travaux de traitement des points chauds soient amorcés urgemment avant la réhabilitation totale de ces routes à moyen terme. Faute de quoi, ils menacent de suspendre le paiement des taxes, impôts et autres redevances. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le premier ministre éthiopien a reçu aujourd'hui le prix Nobel de la paix. Dans son discours, Abiy Ahmed a dit accepter ce prix au nom de tous les Éthiopiens et de tous les Érythréens, y compris le président Isaias Afewerki. Nous ne sommes pas des pays ennemis, mais deux pays victimes d'un ennemi commun, la pauvreté. Nous ne voulons pas que la Corne de l'Afrique devienne le terrain d'affrontement des superpuissances, ni un refuge pour les marchands de terreur. Nous voulons que la Corne de l'Afrique devienne une corne d'abondance pour le reste de l'Afrique, a déclaré le nouveau prix Nobel de la paix. En Angola, le procès du fils de l'ex-président Eduardo dos Santos est ouvert hier à Luanda. José Filomeno dos Santos, 41 ans, ancien patron du fonds d'investissement souverain angolais, et trois autres personnes, dont Walter Felipe da Silva, l'ex-gouverneur de la Banque centrale du pays, sont poursuivis pour détournement de fonds et blanchiment d'argent. Mais hier, l'avocat de l'ex-gouverneur de la Banque centrale a demandé à ce que l'ex-président Eduardo dos Santos soit auditionné comme témoin au cours de ce procès, car pour lui, son client avait agi par obéissance à sa hiérarchie. Ces migrants ont été retrouvés morts de froid entre jeudi et dimanche à la frontière entre la Grèce et la Turquie. Ces personnes, dont deux femmes africaines et quatre hommes âgés de 18 à 30 ans, sont mortes d'hypothermie. Aucun document d'identité n'a été retrouvé sur eux, ce qui rend le processus d'identification complexe. La région frontalière d'Evros, séparant la Grèce et la Turquie, est un lieu de passage privilégié par les passeurs.
L'invité.
Il s'agit ce soir du docteur Marlène Mimbier, médecin à l'hôpital général de référence du Kananga, une structure médicale soutenue par MSF. Médecins sans frontières qui a pris en charge 2200 victimes de violences sexuelles entre janvier et octobre de cette année au Kasaï central. 386 victimes en moins de 18 ans. La majorité des cas proviennent de la ville de Kananga. Docteur Marlène Mimbier est interrogée par Joël Bofengo.
Docteur Marlène Mimbi, bonjour.
Bonjour.
Des cas de violences sexuelles continuent à être enregistrés dans la province du Kasaï central. Combien de cas MSF a-t-il déjà pris en charge depuis le début de cette année?
Depuis le début de cette année, donc du mois de janvier jusqu'au mois d'octobre, MSF a pris en charge environ 2289 victimes de violences sexuelles, ce qui fait une moyenne de 228 patients par mois. Et alors, Médecins sans frontières, et ici à Kananga, travaille en partenariat avec le ministère de la santé et il prend en charge les victimes de violences sexuelles sur le plan médical et psychologique.
Parmi les cas que vous avez recensés, est-ce qu'il y a des victimes mineures?
Bien sûr que oui, il y a aussi des mineurs. Donc, sur les 2289 victimes, il y a 384, environ 16%, hein, qui sont les enfants de moins de 18 ans que MSF a pris en charge.
Donc, la majorité des cas sont plutôt des personnes adultes, c'est bien ça?
Oui, la majorité des cas, c'est des personnes en âge de procréer.
Les cas que vous recevez viennent-ils de la ville de Kananga ou des autres territoires de l'intérieur de la province?
La majorité, ce sont les gens qui sont de la ville de Kananga, mais il y a aussi des gens qui viennent de partout ailleurs, de Chikapa, Angola, de partout ailleurs autour de la province. Recevons tout le monde.
Parlons de ces victimes. Dans quel état vous arrivent-elles?
Généralement, elles sont tristes lorsqu'elles arrivent. Elles sont tristes, donc on voit beaucoup plus la santé mentale. Elles sont frappées sur le plan santé mentale. Et en tant que médicaux, l'urgence pour nous, c'est de prendre en charge médicalement et psychologiquement.
Que vous disent-elles ces victimes? Quels sont les récits que vous entendez le plus souvent dans leur bouche?
Le plus souvent, elles ont été victimes lorsqu'elles fuyaient, lorsqu'elles s'est cachées.
Lorsqu'elles fuyaient les violences, donc?
Bien sûr. Lorsque pendant les troubles, c'est lorsqu'elles fuyaient... craignaient la mort, quoi. Ils allaient se loger quelque part. Soit encore, c'est lorsqu'elle s'est rendue au marché, les marchés de périphérie. Soit encore à la source, ça dépend.
Est-ce qu'il y a aussi des cas de violence au sein des familles, par exemple, entre parents et leurs enfants ou des frères, des oncles?
Bien sûr que oui. Nous enregistrons des cas de violence sexuelle au sein même de la famille, que ce soit entre oncles, parents, cousins, frères. Mais pour nous, l'essentiel, c'est cette prise en charge médicale et psychologique. Et nous insistons sur les délais de 3 jours pour prévenir ces infections.
Justement, parlons de cette question-là du délai de 3 jours. Est-ce que ces victimes vous arrivent suffisamment à temps pour permettre à ce que la prise en charge se fasse dans les bonnes conditions?
Nous recevons des cas qui nous arrivent à temps, mais la plupart aussi, c'est au-delà du délai. C'est pourquoi nous insistons pour que les victimes puissent s'amener dans nos structures dans les 3 jours. Et même s'ils arrivent au-delà de 3 jours, il y a toujours une prise en charge médicale qui est faite et surtout psychologique.
Pourquoi insistez-vous sur le délai des 3 jours? Quel est l'impact de ces délais des 3 jours sur la prise en charge des victimes?
Les délais de 3 jours nous permettent de prendre en charge efficacement les victimes, tout en prévenant les infections sexuellement transmissibles, en prévenant les VIH-SIDA, les grossesses non désirées, à soigner les plaies qui sont encore fraîches et à prévenir le tétanos, l'hépatite B. Oui, c'est pourquoi nous insistons sur les délais de 3 jours et nous garantissons toujours la confidentialité.
Vous faites bien de parler de confidentialité. Dans une région où il y a un certain tabou sur les questions sexuelles, est-ce que lorsque les victimes viennent vers vous, vous leur garantissez le fait que personne ne saura, en dehors de vous qui êtes médecin, ne saura ce qui s'est passé?
Bien sûr que oui. C'est pourquoi nous insistons sur la confidentialité. Lorsque les victimes s'amènent chez nous, qu'ils soient calmes de ce côté-là, nous garantissons vraiment la confidentialité dans notre prise en charge. C'est notre priorité dans notre prise en charge médicale et psychologique. Et vu que les chiffres sont vraiment élevés, nous demandons aux autres acteurs de se mobiliser pour aider aussi sur les autres plans juridiques, socio-économiques, afin que les victimes puissent voir comment reconstruire leur vie.
On va faire un peu de pédagogie. Quand un parent constate que son enfant a été victime d'un viol, qu'est-ce qu'il doit faire immédiatement?
Un parent qui constate que sa fille est victime de violences sexuelles, ce qu'il y a à faire immédiatement, c'est de courir vite vers les structures sanitaires. Nous insistons sur les délais de 3 jours parce que venir vite dans les structures sanitaires va nous permettre de prendre efficacement en charge, va nous permettre de prévenir les conséquences dues aux violences sexuelles.
Docteur Marlène Mimbi, merci beaucoup.
Merci.
Merci aussi à vous qui avez suivi ce journal. Excellente soirée à l'écoute de la fréquence de la paix.